Les Nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le cirque se déshabille au clair de lune, disait poétiquement Georges de Caunes. Le cirque, c'était le zoocircus. Des trapézistes, des danseurs, des acrobates et, bien sûr, des clowns et des fauves. Et un petit garçon de 10 ans, la véritable gazette du cirque, qui fréquentait l'école l'hiver, jouait du saxo et de la guitare et, plus tard, voulait être clown, bien sûr, F.R. l'Auguste. Le clown, il doit tout savoir faire. Cascadeur, danseur, cavalier, équilibriste. Un jour au cirque, un reportage de Georges de Caunes, diffusé pour la première fois sur la chaîne parisienne le 14 août 1949.
Ce numéro termine la représentation. À tous, bonsoir et merci.
La nuit attend sur la grande place la foule jacassante qui abandonne le cirque. Sous la lumière crue des projecteurs, les fauves, les acrobates, les clowns et la jolie petite écuyère suédoise ont terminé leur exhibition. L'orchestre des cuivres a expiré son dernier morceau de bravoure, Saïda la lionne s'est assoupie derrière ses barreaux, mais un peu partout dans la caravane des lueurs clignotent comme des phares, l'oreille saisie des bruits confus, une autre vie plus silencieuse, plus mystérieuse commence. Monsieur John le clown redevient Monsieur Jean, l'administrateur, Monsieur Ligus, roi du tremplin élastique, se transforme en Gustave, chef menteur. Tirana, la danteuse d'ours qui fut charmeuse de serpent, sourit aux étoiles. Dans l'ombre se mêlent les voix des menteurs répondant à l'appel.
Pour le chapiteau, là, hein. Luigi, Désiré, Félix, René, Lunette.
Étonné d'avoir approché de si près les lionnes de l'Atlas et les ours du Canada, étonné de tout, étonné d'eux-mêmes, les bourgeois dans leur drap blanc se sont endormis. Cependant, à leur insu, une étrange métamorphose s'opère sur la grande place. Insensiblement, le cirque s'en va en petits morceaux, le cirque se déshabille au clair de lune comme une danseuse de burlesque américain. Impassible comme un commandant dirigeant la manœuvre sur le pont du navire, Gustave surveille le démontage. La toile est descendue, roulée, disposée sur une remorque. Les quatre mâts, à leur tour, vont perdre leur superbe, glisser au sol, disparaître. Entre deux commandements, Gustave explique.
Alors vous voyez, maintenant je viens de finir mon numéro. Je viens de m'habiller pour de suite être ici dans le cirque parce que je m'occupe du démontage du cirque. Je fais un numéro d'artiste acrobate, de trapin élastique. Et alors j'ai placé tous mes hommes dans les gradins, comme tous les soirs. Et ils sont là, vous voyez, qu'ils attendent la représentation qui finisse. Et vous voyez, la représentation vient de finir maintenant. Tous les hommes sont déjà pris sous des planches. Ils prennent des planches par pile. Ils vont tout de suite les charger dans les camions. Et une fois qu'ils ont fini ça, ils descendent directement pour prendre des corniches et les charger dans la voiture. Alors là, vous allez assister maintenant au démontage de la toile. Ah, juste...
Attention, les équipes. Restez un petit peu le démontage. Je crains qu'il fasse du vent. Le temps se couvre, dépêchez-vous. Achetez un monsieur le chapiteau avant qu'il fasse une tempête, là.
Alors vous voyez, le directeur vient de parler de sa voiture, puisque de sa voiture avec des glaces flexibles, il voit de tout le démontage, il assiste au démontage du cirque, hein, et il donne les ordres par micro ici au chapiteau. Comme de suite, vous voyez, ce soir le temps est orageux, et on risque une tempête, alors tous les hommes, faut qu'ils aillent très vite, alors on espère finir quand même vers 1h30, 2h moins le quart, ou plus tard. Vous allez voir, c'est une chose formidable, parce que là, tous les hommes sont acharnés, ils sautent sur les gradins, sur les planches, de tout, vous comprenez?
Est-ce que vous avez déjà eu des difficultés avec le vent pour le démontage du chapiteau?
Nous avons eu, il y a 15 jours de ça, une tempête terrible, ça s'est passé à Dunkerque. Je suis arrivé sur la place, il faisait un temps orageux. Je fais mon traçage de chapiteau, comme d'habitude, et là, il est tombé une averse formidable et une tempête terrible. Nous avions matiné, et alors tous les hommes, les femmes, les gosses, tout ça a été ici pour donner un coup de main au cirque. Alors nous avons commencé un peu, à peu près, à lever la toile. À moitié de mât. Mais arrivé à moitié des mains, le vent a commencé à souffler. Nous avons essayé de mettre les perches, vous comprenez, pour lever la toile, ce qu'on appelle des corniches. Et quand on a mis une quinzaine de corniches, aussi sec le vent s'est mis à souffler, mais d'une force terrible. Et quand ça a soufflé tellement comme ça, ça arrivait à casser une quinzaine de perches, on a été renforcé de redescendre et de remonter. Mais nous n'avons pas loupé quand même la représentation de la matinée. C'est une chose, vous avez été là, vous avez vu, le monde était acharné vraiment pour risquer de sauver cette toile qu'on voyait qu'elle allait partir.
Et quand le démontage du chapiteau est terminé, quand le chapiteau est enfermé dans les remorques des camions, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, quand le chapiteau est renfermé, les hommes rechargent les mâts parce qu'on fait, une fois que la toile est baissée, ce n'est pas tout, le travail n'est pas fini. Les hommes doivent finir après de charger les mâts. Ça, c'est une chose qu'on baisse avec un treuil, un cabestan avec un GMC. Alors, on descend deux mâts et puis on descend les deux autres mâts avec le câble. Et on les charge. Une fois que tout le chargement est fait, nous faisons le remorquage de toutes les voitures. Et une fois que toutes leurs voitures sont venues, alors je dis aux gars, ben, vous avez fini votre boulot, allez tout le monde au lit. Vous comprenez?
Et ils se lèvent combien de temps après?
Ils se lèvent après, ils se lèvent environ 4 heures après pour recommencer le montage du cirque. Puisque nous, chaque ville, nous faisons matinée tous les jours. Alors les hommes, il faut qu'ils soient toujours à leur poste. Ils ont 5 heures de repos et ils sont vraiment ici dans une maison, une merveille. Vous comprenez?
Maintenant que le cirque est tout entier entassé dans les remorques et dans les camions, la caravane pour quelques heures s'assoupit. Plus un seul bruit sur la grande place. Jusqu'à la minute où le ronflement soudain d'un moteur donne le signal. D'autres moteurs répondent à l'appel, les vieilles rues de la petite ville résonnent et tremblent, et sur la route qui va et qui ne finit pas, la caravane, comme les ombres animées d'un film de Carandache, défile. Levée avec les poules, une vieille demoiselle qui se rend à la messe de 6 heures éprouve un peu de nostalgie en voyant passer les camions où sont inscrits les mots fascinants « Zoo Circus ». Il y a longtemps, longtemps, la vieille demoiselle avait rêvé, elle aussi, de devenir artiste et de s'offrir dans un étonnant saut périlleux sur son cheval blanc à l'admiration des foules. Mais la vieille demoiselle ignore sans doute ce qu'est la vie du cirque, cette vie que l'on apprend en naissant dans la caravane et en ne la quittant jamais.
Je suis née dans la caravane. J'ai toujours vécu dans la caravane. Depuis l'âge que j'ai commencé à marcher, on m'a appris à danser. J'ai appris la danse à 8 ans, la danse classique. Après, j'ai appris un numéro de trapèze à l'âge de 10 ans. Et maintenant, j'ai 15 ans, j'apprends à cheval, le pas de deux. Et je répète tous les jours sous la direction de Monsieur Casi, le grand écuyer suédois. Je suis née dans la caravane. J'ai toujours voyagé dans les routes de France. Je n'ai pas habité dans une maison.
Bien, je m'appelle Romuald et je suis âgé de 10 ans et je connais tout.
Ah, tu connais tout dans le cirque?
Oui.
Je peux te mettre à l'épreuve un petit peu?
Oui, si vous voulez.
Bon, alors je vais te poser des questions et on va voir si tu vas répondre. Oui. Quelle est la longueur du chapiteau?
48 mètres sur 40.
Et quelle est la hauteur des mâts?
15 mètres, à peu près.
Il y a combien de mâts?
4.
Il y a combien de places sous le chapiteau?
Ce chapiteau, il y a à peu près 4000.
Combien de chaises?
300, 350.
Quelle est la durée du spectacle?
3 heures.
Combien y a-t-il d'hommes dans le cirque?
60, à peu près.
Quel est le diamètre de la piste?
14 mètres.
Quel est le poids de la sûre qu'on met dans la piste?
Une tonne, à peu près.
Il y a combien de bêtes?
Il y a 6 cages remplies de bêtes.
Ah bon? Et il faut combien de kilos de viande par jour pour les bêtes?
300 en tout, pour toutes les bêtes.
Il faut combien de kilos d'avoine?
50 kilos.
Eh bien, bravo, je vois que tu es la véritable gazette du cirque, Romuald. Je vais encore te poser une question. Celle-là ne fait plus tout à fait partie des questions qui intéressent le cirque. Est-ce que tu vas à l'école de temps en temps?
Oui, l'hiver, je vais l'hiver.
Tu sais lire, écrire?
Oui, un peu. Je sais lire, mais pas trop écrire.
Et tu joues de quels instruments de musique?
Je joue le saxo et la guitare.
Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans le cirque?
Eh bien, je ferai le clown.
Tu crois l'Auguste ou le clown?
Oh, l'Auguste.
L'Auguste. Et encore une dernière question, est-ce que tu préfères l'école ou est-ce que tu préfères le cirque?
Oh ben, le cirque.
J'ai commencé à apprendre le saxo à l'âge de 3 ans, chez moi, avec mon papa, qui m'apprenait. J'allais à l'école, en revenant de l'école, j'apprenais encore à jouer le saxophone. Au bout d'un mois, j'étais apprendre la danse au studio Baquer. j'ai appris la danse. Bon, mon papa, il venait assister à ce que je faisais. Et ce que je faisais mal, il me disait. Après, j'ai appris à faire la danse russe. Donc, j'ai débuté au Cirque d'Hiver en faisant la danse russe avec le saxophone.
Et est-ce que tu joues d'autres instruments de musique que le saxophone?
Je joue la trompette, le piano et la guitare.
Bon, je voudrais que tu nous dises si tu as deux petites amies de ton âge dans la caravane. Tu as 10 ans, je crois.
Oui.
Et je voudrais savoir s'il y a d'autres petites filles avec lesquelles tu peux jouer entre le spectacle.
Oui. J'ai des amis ici, mais ils sont bien plus grandes que moi. Mais enfin, on s'amuse à dire les costumes qu'on veut mettre le soir. Et puis, j'ai une très grande amie à Paris, Sandrine Bouglione.
Je voudrais, pour terminer, que tu nous dises, Lydia, ce que tu voudrais faire plus tard dans le cirque. Qu'est-ce que tu te destines à un métier quelconque?
Je voudrais surtout faire l'écuyère et de la musique et de la danse.
Parlent de leurs projets et commencent à travailler, les vieux continuent à travailler et évoquent leurs souvenirs. Le père Zavatta, qui fut un auguste célèbre, qui fut acrobate, danteur, lutteur, équilibriste, directeur de cirque, le père Zavatta, qui a aujourd'hui 80 ans, depuis 80 ans se lève à 4 heures du matin et se couche quand il a le temps.
C'est que moi je montais le cirque à l'âge de 19 ans, vous comprenez, quand j'étais des enfants artistes. Alors j'avais déjà deux enfants. J'ai monté au cirque de 20 mètres. Et j'ai viagé à mon compte, parce que mon père il m'a autorisé de sortir, il m'a vu que c'était tellement intelligent. J'ai été vite, j'ai monté un peu plus haut. Alors j'étais jusqu'en Autriche, encore c'est la seule Italie. Quand j'étais dans des pays à côté de Pola, j'ai monté mon cirque à un pays qui s'appelle aussi un Piccolo. C'est un bel village, à l'été il y a beaucoup de monde. Mais à côté il y a un autre pays qui s'appelle aussi un Grande, que c'est la villa de l'empereur. C'est une petite île comme il y a un grand village, l'empereur d'Autriche. Un jour, il m'a appuyé même la matinée, pour ne pas faire la matinée et partir tout de suite. Pourquoi l'arciduc Carlo Stefano Ferdinando, c'est le neveu de l'empereur, il vous exige là, pour vous et votre femme, pour jouer de la musique. Alors il dit, allez, il m'a dit, les messieurs qui sont venus me chercher avec une voiture à dos vous, à télé, enfin, comme les, vous savez bien, les rois, les empereurs, et c'est monté. Parce qu'il m'a dit qu'il me payera tous les frais. J'ai pris les instruments les plus nécessaires, le xylophone, les cloches, le violon, la flûte, l'ocarina, et c'est parti, moi et ma femme. Alors là, on nous a fait commencer à jouer, c'était 11 heures, et on a continué pendant demi heures en présence de grandes personnalités. Il y avait deux généraux, le comte Korinsky, il y avait, comment je vous ai dit, l'archiduc Carlo Stefano et la famille. Et alors là, nous avons commencé à jouer toutes les pièces qu'il nous a réclamées. Il voulait toujours des pièces à peu près qu'il connaissait, Lucia, Santa Lucia, les pièces italiennes, etc. J'ai joué même l'Ave Maria d'Huguenot. Alors l'Ave Maria d'Huguenot, pourquoi ma femme n'était pas trop forte, que c'est très difficile l'accompagnement, au général, il a pris le piano, il a continué à m'accompagner. Quand j'étais fini, j'étais très satisfait. C'est venu l'heure de manger, c'est mis à l'apéritif et après à la table. Mais ma femme s'était habillée en clown. Tous les deux, bien à filmer la figure et tout. Et on ne s'est pas même fait laver la figure, mais rien, pour rigoler après sur nous. Et on a mangé, comme ça. Et il nous a présenté des choses formidables, imaginez. Et après de ça, on a mangé des poissons gros, comme ça, 2 kilos. Il n'y avait rien dedans, pas des épines, rien. On pouvait manger tranquillement. Après la volaille qui nous a présenté, c'était pareil, sans les os. Et on a mangé très bien, et tout ça. Après il m'a pillé tout en main, en or. Et continuait à me donner dans mes mains la pièce en or. Il dit, tiens assez, il que nous, pourquoi moi je parlais d'allemand. Il que nous, moi je disais jamais la réponse. Après il m'a donné plus que ma soirée, que mon matinée. Je l'ai vu une belle somme. Et après, j'ai vu un certificat, car en allemand, on dit Besteticum. Un Besteticum de la maison royale, impériale de Suisse. Il nous accompagnait encore jusqu'à l'océan. Après là, on fait une soirée à la nuit. Et nous avons continué pour notre tournée dans les autres pays.
Cependant, dans une caravane voisine, Madame Jean gère la comptabilité, s'occupe de ses enfants, fait la cuisine, fait le ménage et, à l'occasion, fait aussi la conversation.
Madame Jean, vraiment, je ne sais pas comment vous faites pour tenir. Depuis ce matin, vous vous êtes levé à 6 heures. Lorsqu'on est parti, vous étiez déjà levé, je vous ai vu, vous occupiez déjà des petits. Après, ça a été, quand on est arrivé, la régie, les billets, le repas, les courses, tout. Enfin, c'est affolant, je ne sais vraiment pas comment vous faites. Et puis maintenant, vous êtes toute fraîche, vous avez une jolie robe noire, vous êtes toute fraîche, vous êtes en femme du monde, c'est effrayant. Comment faites-vous?
Vous savez, c'est beaucoup une question d'habitude. C'est notre métier, nous sommes nés là-dedans. Alors on s'y fait très bien. J'ai l'habitude comme ça. Par exemple, quand la caravane part, comme vous dites, je commence à ranger mes affaires un peu dans la voiture, parce que je sais qu'en arrivant, le temps sera très limité. Il faudra que je m'occupe du dîner, car aujourd'hui, par exemple, il y a matinée. Et alors, il faut être prêt à l'heure. Vous avez vu l'entrée du contrôle, nous sommes là comme tout le monde. Après, pendant la représentation, il y a toujours quelque chose à surveiller. Après, c'est encore le repas qui vient, celui du soir, et puis souvent même du café pour tout le monde, comme a dit Monsieur de Cône.
Les toilettes des cinq petits-enfants, car tous les soirs et tous les matins, les cinq petits, douche complète.
Oui, c'est surtout Billy qui donne du travail, le dernier, celui qui a un an. Ce n'est pas toujours facile, mais enfin, c'est notre métier comme ça et on le fait quand même.
Vous êtes une vraie femme de cirque, vous?
Oui, du côté de mon père, oui. Je crois que depuis aussi loin qu'on puisse voir, ça a toujours été des gens de cirque. Ma grand-mère, mon aïeul dansait sur la corde. Du côté de ma mère, c'est différent. Mon grand-père maternel était un gentilhomme vénitien. Il s'était destiné aux ordres, puis un jour, il a vu passer un cirque. Il a changé d'avis. Il est parti avec le cirque et s'est marié avec la jeune écuyère.
C'est une belle histoire, ça. Et puis, je sais aussi, excusez-moi de vous dire ça, mais votre grande fille, Emma, vous l'élevez comme toutes les jeunes filles de bonne famille de cirque. Elle est très gâtée, mais sévèrement, n'est-ce pas, elle a le droit, elle n'a jamais le droit d'aller seule, danser ou sur une plage.
Oh non, sûrement pas. Pas au bal. Pas à la plage toute seule non plus. Vous savez, les gens de cirque sont très fiers de ça. Ils veulent que leurs jeunes filles restent vraiment des jeunes filles jusqu'au bout.
Vous me demandez là une chose, vous savez, mes souvenirs, mes débuts, ça date depuis longtemps. Quoique je ne sois pas très vieux, j'ai déjà 33 ans de métier de clown, n'est-ce pas? Et pendant ma carrière, j'ai fait un peu tous les numéros. Mais enfin, en quelques mots, je vais vous dire, vous savez que la famille Zavatta, n'est-ce pas, moi, Rolf, je suis le frère à Zavatta, nous sommes depuis très longtemps dans ce métier. C'est-à-dire que mon arrière-grand-père faisait déjà le métier d'artiste de cirque, quoi. Alors voilà que, à l'âge de 5 ans, j'avais déjà débuté à cheval. Et j'étais tout petit. Alors vous savez, dans le temps, on travaillait à cheval très jeune, mais il fallait, c'était obligatoire, d'avoir une longe de sûreté. Alors j'ai débuté, je me mettais debout sur un cheval au galop, et puis alors mon numéro se terminait que la longe qui était attachée au bout du chapiteau était tirée par un homme qui se trouvait au milieu de la piste, et puis moi je partais en vol plané, n'est-ce pas, sur la tête du public, et naturellement ça déchaînait un éclat de rire, c'était vraiment rigolo de voir ça. Après, à l'âge de 7 ans, tout en faisant du cheval, parce que je ne l'ai jamais abandonné, j'avais débuté un numéro de contorsion. Vous savez, ces numéros de souplesse qu'on appelle l'homme serpent ou l'homme caoutchouc, n'est-ce pas? Alors j'avais fait ce genre de numéro. Et puis j'ai dû l'abandonner environ à l'âge de 18 ans parce que pendant ce temps, je travaillais à cheval, je faisais des sauts au tremplin. Alors pour avoir de la souplesse, il ne faut pas être très musclé, n'est-ce pas? J'ai dû abandonner ce numéro de contorsion parce que ça devenait pénible pour moi. Alors je m'étais spécialisé en somme dans le saut au tremplin où j'avais exécuté, je suis le seul d'ailleurs à avoir exécuté cet exercice, je sautais par-dessus trois conduites intérieures en saut périlleux. C'est un exercice qui avait été filmé par plusieurs maisons cinématographiques, le temps dont où il y avait Madame Germaine Villac qui tenait France Actualité, Gaumont Actualité, enfin tout ça. Et puis un beau jour, je m'étais blessé en faisant ce numéro, les journaux, je crois qu'elles l'ont mentionné aussi, je m'étais fait une hernie discale et j'ai dû abandonner le numéro du saut. Alors, je me suis consacré au clown. Je dis, tiens, c'est une chose qui plaît beaucoup, qui me plaît beaucoup à moi-même. Alors, j'ai continué à faire le clown, mais je l'ai pris un peu plus au sérieux. C'est-à-dire que je me suis mis sérieusement à répéter une dizaine d'instruments, tout en m'exerçant tous les jours. Parce que vous savez, le métier de clown ne suffit pas de se mettre un clown en paillettes et puis se faire la face blanche et se dire clown. Non, un clown doit tout savoir faire. Moi, j'estime qu'un clown doit savoir travailler à cheval, être équilibriste, sauteur, musicien, danseur, cascadeur, en fait, tout ce qu'il faut vraiment pour faire un clown complet. Et c'est pourquoi, tout en faisant mon numéro de clown, vous voyez, vous êtes là, vous avez remarqué tout à l'heure, je m'exerçais, faire différentes choses, il ne faut jamais abandonner l'exercice de toutes choses, tout ce qui concerne le cirque, pour être clown. Et c'est pourquoi je suis très heureux en ce moment d'être avec un partenaire qui est mon frère, Zalatan, n'est-ce pas, d'être avec lui, parce que jusque-là, j'avais eu plusieurs partenaires, et je n'ai jamais rencontré un clown aussi complet, c'est-à-dire un obus aussi complet que mon frère. Parce que lui, vraiment, il a toutes ses qualités, et vraiment, des qualités qu'il a poussées à fond, on peut dire, pour un obus. Parce que quand il entreprend de faire quelque chose, à mon avis, c'est le plus parfait des obus. J'en suis très heureux, très, très flatté.
Papa, je vais aller au cirque.
Déjà, les enfants rôdent autour de la caravane qui s'est installée sur la grande place. Ils savent déjà que ce grand garçon blond, effrayé par les remontrances que lui prodigue sa femme, c'est le célèbre danseur Repka. Ils savent aussi que la jeune femme qui vient de glisser malencontreusement, c'est la meilleure trapéziste du monde, celle qui exécute un équilibre à 8 mètres de hauteur. Sur les murs, des affiches aux couleurs violentes représentent la trogne enluminée de Zabata l'Auguste et la face enfarinée de Rolf son partenaire. Le gorille se détache menaçant sur fond de brousse aux portes de la mairie et une imagerie d'Épinal illustre la révolte des éléphants qui fit couler tant de sang et tellement d'encre. Mais les hommes du cirque rival ont arraché quelques-unes des affiches et des mesures d'autodéfense s'imposent. La guerre des cirques connaît ainsi chaque semaine de nouveaux épisodes dignes des meilleures bagarres des westerns américains.
Ah ben tiens, ça tombe bien, je te cherchais. Dis donc, est-ce qu'il paraît qu'on a été recouvert, hein, dans un pays là.
Encore ?
Oui, oui, oui. Oh, bah. Alors faut pas se laisser faire, hein, faut aller les contrecarrer tout de suite. Il y a qu'à prendre la camionnette qui est là pour renforcer le service. Non mais on va pas se laisser arranger. D'ailleurs, tu as qu'à aller à une imprimerie, fais-toi faire 5-6 000 prospectus, il y a un terrain d'aviation à côté. Tu as qu'à payer d'avance qu'ils aillent tout de suite jeter les prospectus sur le cirque. Alors, Nachavez, vous voyez qu'on est en train de bagouler avec le gadjo, là, il va se mangave ce qu'on veut. Nachavez, allons.
Cependant, les mâts se dressent, la toile se tend, le chapiteau s'installe.
Allez, écoutez là. Attention à la toile là. Levez en l'air, allez.
Et à l'heure dite, comme chaque jour, le miracle se reproduit, le cirque est dressé, la représentation va commencer.
Il y a de la place pour tout le monde.
Belle fois.
Par ici, monsieur, dame, s'il vous plaît, seconde, suivez loin.
Combien par ici ?
Combien de personnes ici, monsieur ?
S'il vous plaît, madame, combien de personnes ? Trois secondes, allons-y. Deux secondes ici. Ah, vous êtes avec ?
Combien de temps vous êtes là? 4, 3 personnes. Au revoir, madame.
Ah, ben c'est pas... Les trois personnes ensemble, s'il vous plaît.
Raconter ça assez brièvement. Tout d'abord, enfant, il ne me venait pas une seule fois l'idée que j'aurais pu être dompteuse. D'abord, je ne connaissais même pas le cirque. Et puis, les circonstances de la vie m'ont amené à rentrer au couvent. Je suis rentrée de 15 ans à 20 ans, j'ai pris le voile des bénédictines. Et le goût de l'aventure étant le plus fort, je me suis évadée. Là, j'ai fait tour à tour détective privé, charmeuse de serpents. Mais, auparavant, je suis entrée ouvreuse chez Bouglione. Et le goût du cirque m'ayant pris, je désirais un jour travailler sur la piste, mais je ne savais pas encore en quoi ni comment. J'ai travaillé avec des serpents, une occasion. Et voyant que j'avais assez d'influence sur les bêtes, j'ai décidé d'être dompteuse. La première occasion s'étant présentée sous M. Robert Henry, un Belge, je suis partie chez lui pour être dompteuse. Je suis arrivée à Valkenburg, en Hollande. Je n'avais jamais rentré dans une cage, ni jamais approché des bêtes de près. Ils m'ont fait rentrer, avec trois ours, dans un sabot qui mesure à peu près 1,50 m de long sur 1 m de large. Au moment de franchir le premier pas, je dois avouer que j'ai eu assez peur. Mais j'ai réfléchi et j'ai senti que si je n'étais pas plus forte que ma peur à ce moment-là, je ne serais jamais dompteuse. Alors j'ai pris le dossier, je suis rentrée. Lorsque je suis sortie, j'ai demandé au maître Hagenbeck, « Que pensez-vous? Est-ce que je serais de bonne dompteuse ?» Il m'a posé une question assez bizarre. Avez-vous eu peur? J'ai été obligée de répondre oui. Marie m'a dit, c'est bon, vous trouvez le chemin. 4 jours après, je débute à Bruxelles. Et depuis, vous voyez, j'ai fait toute la Belgique. J'ai travaillé un peu en Hollande et donc je travaille en France actuellement. C'est un numéro d'ours qui est tout travaillé en douceur. Et ce qui fait la valeur du numéro, je ne sais pas si le public l'apprécie bien, mais c'est surtout une intimité avec les bêtes. Vous voyez que c'est une histoire assez brève, je crois que vous l'avoir assez compris.
Et voici, succédant à Tirana, le dompteur Repka.
On va mettre la tête dans la gueule de la lionne.
Mais le spectacle n'est pas seulement sur la piste. Pendant que le dompteur Repka met sa tête dans la gueule de la lionne, l'épicière de la petite ville tortille nerveusement son mouchoir en batiste, le notaire serre l'une contre l'autre ses mains moites, le vieux colonel, qui a fait sa carrière en Afrique du Nord et qui sait que l'on ne doit pas jouer ainsi avec les lionnes, tout saute d'un air indifférent jusqu'à ce que les applaudissements viennent enfin le libérer, fier comme s'il se fût agi de sa propre tête, d'avoir prouvé à Saïda que le courage humain n'est pas un vain mot. Angoisse, détente, angoisse, les Barexos jouent sur une échelle fixée sur une table. Puis le couple des Barexos se retrouve dans les coulisses.
Dis donc, tu pourrais bien faire attention, mon vieux, tu m'as encore insuqué dans le travail.
Qu'est-ce que tu veux, poulet?
c'est le travail. Si je tape pas fort, au moment de qu'est-ce qu'ils disent.
Oui, mais.
Ils ne se rendent pas compte.
Mais c'est marrant, toi. Tous les jours, tu tapes fort, fort, fort. Un jour, moi, je vais rester sur la piste et puis je pourrai plus bouger.
Eh bien, on te sortira, ça sera plus facile. Tu verras, je t'enverrai le moteur.
Tiens, tu peux toujours rigoler. Tiens, ça se voit que c'est pas toi qui prends les coups.
Que veux-tu, mais pourvu qu'on s'entende bien à la voiture.
C'est oui, heureusement, heureusement qu'il y a encore une petite.
Tiens, viens vite, poulet, on va aller à la voiture, on va voir ce que le fiston fait.
Oui, pourvu qu'il ne soit pas encore amusé avec le maquillage. Oh, alors écoute, tu sais vraiment.
Qu'est-ce que tu veux? Toujours son maquillage, mais c'est ta faute, là, quand t'as le laissé sur la table.
Le fils à son père.
Et tout le caractère de la mère, que
naturellement, chérie.
Hein? Dis, il faudra voir le gosse parce que tu sais qu'hier, il n'était pas bien, hein.
Tu sais bien que c'est. Même tu sais bien, Nénette, il manque toujours des glaces. Il prend toujours de l'argent à droite, à gauche, les monteurs lui en donnent.
Tu sais bien qu'il y a son embarras gastrique, le docteur lui a recommandé ses pilules. Faut pas l'oublier, ça.
Il y en a pris deux ce matin.
Mais tu as toujours raison, monsieur le poulet. Ben, ça fait rien. Que veux-tu qu'on fasse maintenant? Tu vas aller faire le marché en ville?
Ben oui, mais écoute, Nénette, j'ai encore les recueils à vendre. Après les recueils, il faut que je fasse le compte de la concession. Et après, il faut que j'aille en ville. Aujourd'hui, c'est dimanche et tout est fermé.
Tu sais bien qu'il ne faut pas manger trop tard, parce que si tu manges trop tard, ce soir est la soirée, alors. Tu sais bien que ça te ballonne sur ton ventre.
Veux-tu que je te fasse un pas de bêtises de Cambrai?
Si tu veux. Tiens, ça tombe bien, nous sommes justement à Cambrai.
Oui, non, mais dis donc, arrêtons, parce que tu sais, regarde ce soir.
Oui.
On va avoir juste le temps de vendre les programmes, de préparer la concession. S'il y a encore les courses à faire, jamais je serai à l'heure.
Ben, on va faire tout le possible, parce que tu sais qu'après le spectacle, hein, ce soir, demain, il y a une grande étape, et je crois qu'il y a 100 et quelques kilomètres à faire, alors on partira aussitôt le chapiteau en bas.
Alors, sois un amour, prends le brodo, va me chercher de l'eau pendant ce temps-là, je vais préparer à manger.
Eh bien, j'y vais, mon poulet, voilà.
Dis donc, regarde, appelle Charlie, regarde-le, il est en train de se rouler encore là-bas par terre. Charlie, viens vite, mon poulet.
Et c'est maintenant John et Randall, le clown et l'Auguste, qui vont à leur tour entrer en piste.
Moi, je suis un enfant de la balle. Je suis une vieille famille de cirque. Mon grand-père était écuyer à cheval et jongleur en même temps. Ma mère, qui était fille de... Ma grand-mère était une petite fille pain d'air. Maintenant, mes parents, mon père faisait l'Auguste dans le temps, et ma mère était écuyère, fille de ferriste et danseuse de caractère. Maintenant, moi, j'ai débuté sous les armes de Zavata. Avec lui, j'ai fait de nombreuses entrées comiques. Et par la suite... J'ai monté un numéro de danse excentrique que je faisais précédemment. Cette année, nous avons monté avec John un numéro de clown qui, d'ailleurs, ce numéro ne va pas trop mal. Ça, je ne m'en plains pas. Maintenant, quand le public voit les artistes en piste, c'est-à-dire les clowns surtout, ils disent, oh, ils font ça à la rigolade, tout ça, mais il faut surtout faire bien attention à tout. Les cascades, les gestes, les répliques et tout ça, il faut savoir les prendre et surtout bien imiter, bien faire le mime. Maintenant, je suis obligé de m'excuser, car nous allons rentrer en piste dans quelques instants. D'ailleurs, excusez-moi.
Bonsoir, mesdames, mesdames et messieurs, bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur le régisseur.
Yeah, John. Comment allez-vous?
Très bien, et vous-même?
Très bien, merci. Eh, dites-moi, on ne vous voit plus à vous. Que faites-vous?
Ah, mais c'est vrai, vous ne le savez pas?
Non.
Je ne fais plus le clown, monsieur, c'est fini.
Comment? Vous ne faites plus le clown?
Ça ne rapporte pas assez.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire?
Eh bien, voilà, j'ai monté à un très grand restaurant à Paris.
Bravo!
Place Pigalle, monsieur.
Ça, c'est bien, c'est dans mon café.
En effet, et je suis à la recherche d'un garçon de café. Vous ne me connaissez pas ça, par hasard?
Oh, ce n'est pas ce qui manque. Tenez, je vais m'occuper de ça.
Vous êtes gentil, monsieur, merci. Tiens, bonsoir,
voilà,
John. Bonsoir.
Comment ça va?
Ça va très bien, et toi?
Ça te regarde pas.
Allez, 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 fais pas le malin, va. Dis-moi, que fais-tu en ce moment?
Ah, en ce moment, je suis en chameau.
En chameau? Non, tu veux dire en chômage.
En fromage, enfin.
Non. Tiens, j'ai du travail pour toi.
Ça, c'est chic, alors.
Veux-tu être garçon?
Comment?
Je te demande si tu veux être garçon.
Enfin, là, qui me prend pour une fille, maintenant, lui.
Non, tu n'as pas saisi. Garçon de café.
Oh, mais oui, tout de suite, moi, oh là là.
Tu sais ce que c'est?
Non.
Eh bien, c'est le monsieur avec le plateau, la serviette, qui vient au client, tu demandes pour servir.
Ah, je vois, pour servir à boire.
Et à manger en même temps.
D'accord, John.
Alors, va t'habiller et reviens de suite.
J'y vais.
À la bonne heure. Alors, monsieur le régisseur, faites entrer table, chaise, couvert, meuble, et surtout, n'oubliez pas le champagne.
Bon, ça, 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 ça.
Oh. Y aurait-il parmi l'aimable société un monsieur qui voudrait boire et manger gracieusement?
Entièrement gracieux.
Parfaitement, monsieur. Comment, il y a des clients? Garçon?
Par ici, monsieur, par ici.
Occupez-vous de monsieur, par ici.
Par ici, monsieur.
Garçon.
Ah, c'est là. Ah.
Avancez, monsieur.
Non, non, monsieur, entièrement gracieux.
Parfaitement. Ah, comme ceci. Là. Voilà.
Et après John et Randall, ce sera au tour de Marion Casi du Palladium de Londres, dit le programme, à entrer en scène.
Je suis d'une vieille famille d'artistes. Mon grand-père et mon grand-mère étaient déjà artistes de cirque. Je débutais en Amérique du Sud sur un petit cheval blanc. Je faisais un numéro de voltige. J'étais 6 ans alors. Après, je commençais avec mon numéro d'acrobatique. Je fais un temps faire tout ça maintenant. Je travaille sur 3 tonneaux. Je fais le supérieur en avant, le flic-flac et tout ça. J'étais en Palladium de Londres. Maman, je travaillais avant la guerre. J'étais malheureusement pas en Italie. Mon père est italien, moi j'étais jamais là. Bon, j'espère que je vais aller là une fois. Je suis en France ici 5 mois, de tourner avec ce circus. Et le public français m'appelait beaucoup. C'était tous bien, mon travail c'était toujours bien. Ça fait 12 ans que je suis en train maintenant. Et jamais arrivé quelque chose, j'espère qu'il va se vivre comme ça. Merci.
Allô, allô. La direction a le plaisir de vous présenter la plus forte trapéziste du monde, Maryse Bégari. Et voici Maryse Bégari. Maryse Bégari va exécuter un exercice de sa création de la plus haute difficulté, le tourbillon d'un bras.
Maryse Bégari fait son numéro de trapéziste tous les soirs au circus. Elle est toute jeune, elle est toute frêle, elle paraît toute timide. Je voudrais lui demander, maintenant qu'elle vient de terminer son numéro, je voudrais lui demander à quel âge elle a commencé à faire du trapèze et à quel âge elle a fait ses débuts dans le cirque.
J'ai commencé à faire des répétitions à l'âge de 3 ans et mon frère, j'ai fait mes premiers débuts en public au Cirque Medrano à l'âge de 13 ans et dont j'étais la vedette aérienne présentée par Crisis de Lagrange.
Et depuis, je crois que je ne vais pas commettre une indiscrétion en disant que ça fait 10 ans que vous avez fait vos débuts à Medrano. Je voudrais savoir si depuis vous avez continué chaque jour à présenter ce numéro.
Et oui, tous les jours, chaque jour, je fais ce même numéro de trapèze qui est actuellement au zoo circus. Oui. Donc mon trapèze est à 8 mètres. Je commence mon numéro par monter à la corde en bras roulés, ce qui est d'ailleurs très dur. Ensuite, je fais quelques exercices au trapèze. Et surtout, ce qui est très dur pour moi encore, c'est que je monte l'équilibre par force au trapèze, ce qui est unique au monde. Même pas une femme et un homme peut faire. Et qui est très dur, vu qu'il faut un point de repère par terre quand il y a de la mauvaise lumière. Mais d'ailleurs, c'est très difficile. Il faut beaucoup de lumière. Et quelquefois, il arrive que je ne monte pas mon équilibre de première fois.
Et vous êtes toujours à 8 mètres de hauteur quand vous travaillez au trapèze. Je voudrais vous demander, vous voyez à ce moment-là les gens de très haut, vous voyez leur tête qui se lève vers vous. Je voudrais vous demander si vous êtes impressionné par ces gens qui vous regardent.
Bien, non, parce que malgré tout, je ne suis pas une débutante. J'ai fait quand même 10 ans d'école professionnelle. Et maintenant, j'ai l'habitude, naturellement.
Et vous n'avez jamais le trac de monter là-haut à 8 mètres, c'est très haut. Je vous pose toutes ces questions, je vais vous dire pourquoi, parce que quand je vous ai vu pour la première fois, moi j'ai eu le trac pour vous, alors je voudrais savoir si vous, vous l'avez aussi.
Oh non, pas du tout, sauf que pour l'équilibre, naturellement, il faut toujours un peu de...
Il faut se lancer.
Il faut se lancer, voilà, oui. Il n'y a que ça qui me tracasse, sinon tout le reste du travail, c'est bien.
Eh bien, il faudrait que j'ajoute aussi que lorsque vous avez fini votre numéro de trapèze, vous redescendez à terre, bien entendu, et à terre, vous retrouvez votre mari qui vous attend, et puis ensuite vous rentrez dans la caravane et vous retrouvez votre petite fille qui a 16 mois. Et je voudrais dire aussi que lorsqu'il n'y a pas de matinée au circus, vous en profitez pour promener tout tranquillement votre petite fille qui a 16 mois, comme toutes les mamans du monde. Mais j'ai la chance d'avoir auprès de nous votre mari, et puisque vous ne m'avez pas répondu au sujet du trac, c'est à lui que je vais demander s'il a le trac lorsqu'il vous voit voltiger à 8 mètres de hauteur.
Ah ben, je vous dirais franchement, non. Je suis sûr d'elle, alors c'est comme si c'était moi qui y étais.
Out.
15 minutes d'entracte pour la préparation de la seconde partie du programme. Pendant l'entracte, visite de la ménagerie. Pour la visite de la ménagerie, en face, en sortant du cirque. Nos vendeurs et vendeuses vont passer vous offrir leurs friandises. Demandez bonbons, pastilles à l'amande, pastilles acidulées et les esquimaux délicieux chocolat glacé. 15 minutes d'entracte, visite de la ménagerie.
Allons visiter la ménagerie, une belle collection d'animaux, des lions, des lionnes, des ours, des panthères, des hyènes du Japon, des ours d'Amérique, 2,80 m de hauteur, des grizzlies. Par ici l'entrée, allons voir une belle collection d'animaux, 50 francs seulement l'entrée, allons voir ça monsieur, par ici l'entrée.
C'est Nano, Nano, le nain classique, le nain indispensable, qui ce soir fait visite.
Ah, je ne suis pas très grand, je mesure 1m30, et j'ai toujours eu l'idée dans la tête de faire du cirque. Avant, j'ai continué mes études jusqu'à le BE, le brevet élémentaire, et après, ma mère m'a pris comme ça pour la comptabilité dans son bureau. J'ai appris la scéno, la dactylographie, mais un beau jour, le cirque Bostock, à 9 km de mon petit patelin, 700 habitants seulement, est passé. Et ma mère n'y voyait pas d'inconvénient quand il y avait cinéma, cirque, tout ça, que je me déplace pour aller les voir. J'ai donc été avec quelques camarades au cirque. Mais là, pas qu'à l'entrée, je rencontre M. Jean, directeur du cirque Bostock, qui me présente au grand clown et auguste, Zavata. Veux-tu venir faire du cirque là, la première parole, ça a été de dire oui. En revenant, il était 11h30, minuit moins le quart. J'ai donc réveillé mes parents qui dormaient dans un profond sommeil pour leur annoncer la nouvelle. Ma mère était enchantée parce qu'elle voyait que j'allais goûter un peu de vache enragée. Mon père, lui, ne disait rien du tout et ils m'ont laissé partir. Le lendemain, j'ai fait mes bagages et avec la petite voiture à mon père, il m'a emmené à Roy, à une 20aine de kilomètres de Montdidier où j'avais connu Zavata. Donc, ma mère, j'écrivais à ma mère comme ça, et toutes les semaines, elle me disait alors, ça va, tu ne t'ennuies pas. J'ai dit non. Et croyant me voir revenir dans une semaine, 9 mois après, elle m'a vu revenir à la maison, avec un peu d'argent et content. Monsieur Zavata m'a fait embaucher au cirque d'hiver, pendant tout l'hiver, et j'ai repris une nouvelle saison, comme ça, de cirque. Si bien que maintenant, avec le peu d'argent de ma saison, je vais m'acheter un beau petit camping, mon père, ultra moderne, petit camping nain.
Voilà. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, veuillez regagner vos places, s'il vous plaît, l'entracte est terminé. Veuillez regagner vos places, s'il vous plaît, l'entracte est terminé. Allô, allô. Le programme se poursuit par la cavalerie du capitaine William Moore.
Les chevaux, vous savez, il faut beaucoup de patience d'abord. Et puis, c'est très long et très dur. Et malgré tout, il y a certaines bêtes qu'il faut apprécier leur caractère. Ils sont en piste, on les voit marcher, n'est-ce pas? On les fait marcher dans la piste au début, tout doucement, pour leur faire voir la piste à la longe. On les fait marcher à droite, à gauche. Parce qu'un cheval, au début, si on le fait aller trop vite en piste, arrive à se saouler, il pourrait tomber. Mais on arrive quand même à faire quelque chose avec les chevaux, car c'est encore assez intelligent. Moi, je dresse des chevaux depuis l'âge de 13 ans, j'ai toujours dressé des bêtes. Et à chaque fois, j'ai réussi à faire faire aux chevaux ce que j'avais dans l'idée de leur faire faire, malgré tout. Et j'en ai de ce moment qui travaillent très bien. J'ai des poneys du Shetland qui font plusieurs numéros, aussi des chevaux arabes, on s'appelle, qui travaillent très bien aussi. Pour dresser un groupe de chevaux, il faut compter dans les 7 à 8 mois, 10 mois. On arrive à leur faire faire un numéro assez bien. Mais malgré tout, pour qu'on soit sûr, n'est-ce pas, du numéro, il faut compter au moins un an de travail. Car les chevaux, n'est-ce pas, se trouvant en piste après, quand ils sont dressés devant le public, arrivent encore à faire des bêtises. Parce que malgré tout, ils sont un peu émotionnés de voir le public, la musique, tout ça. Alors, n'est-ce pas, on commande beaucoup les chevaux à la parole aussi, et au mouvement du fouet. Alors devant le public, ça les trouble. Mais enfin, pour être sûr du numéro, il faut compter au moins un an de travail.
Après William Moore, les Rolandi, jongleurs acrobatiques.
C'est Ricardo Gisèle. C'est Ricardo Eugénia. Quand on a fait le voyage du Hambourg en Japon,
oui,
et que l'on prit la toile du chapiteau, ils ont fait la piscine, on a nagé tous les matins.
Tu ricordes, Gisèle, quand nous avons été au Japon, à Tokyo, que le chapiteau, il est allé tourner en l'air,
oui,
le typhon qu'il est venu.
Le typhon, non?
Oui.
Et en Chine et en Inde, comme ils sont drôles habillés.
Oui, je me rappelle.
Tu te rappelles?
Oui.
Mais c'est dommage qu'on n'a pas travaillé ce temps-là, on était petits.
Oui.
Et tu te rappelles qu'on a commencé à travailler
avec les danses acrobatiques.
En Italie.
Oui.
Et après, on a appris le jonglage.
Oui. C'est un travail beaucoup de main, ça.
C'est difficile, pourquoi il y a besoin plus de penser, plus de sang-froid.
Au moment que plus l'acrobatique, pourquoi c'est plus chose énergique.
Oui, ça aussi. Et tu te rappelles quand on était en Danemark et en Suède 5 années là,
oui, avec un autre numéro de jonglage.
Oui. Et maintenant ici en France.
C'est joli ici en France. J'espère de rester beaucoup encore.
Et la vie en voiture qu'on a toujours fait, oui. C'est joli. C'est...
Les plus jeunes écuyers suédois. Célèbres clowns du cirque d'hiver de Paris et de la radiodiffusion française, Rolf et Zavatta.
Cher Duncan, vous me demandez la formation d'un homme de cirque. Vous savez, c'est assez long et surtout très dur à obtenir. Parce que vous voyez, nous autres, nous sommes d'une famille de banquistes, comme on dit. Les banquistes, ce sont vraiment les souches des gens de cirque. Comprenez, on ne sort pas d'une société de gymnastique ou un truc comme ça. Et c'est pour ça que, pour vraiment faire un bon clown, sans se donner de gants naturellement, il faut tout d'abord être musicien, acrobate, et avoir commencé très jeune pour connaître toutes les finesses du métier. Et dans notre métier, c'est une vie très très fatigante et il faut avoir beaucoup de volonté pour pouvoir continuer. Vous voyez, en plus de mon numéro, je suis artiste, vous savez, il faut que je dirige également le cirque. On se lève le matin à 5 heures, on ne se couche pas avant 3 heures du matin, donc on ne dort pas beaucoup, vous savez. Les gens qui sont là le soir, qui nous voient sous les projecteurs, toujours gais, toujours à avoir envie de faire rire, ils ne se doutent pas que, malgré tout, on a très peu dormi. Et ça, ça vient de l'artiste qui a vraiment de l'amour propre, qui se dépense jusqu'à la fin, naturellement, pour faire ignorer aux gens qu'il est fatigué, et, naturellement, et tâcher de les satisfaire.
J'aimerais, M. Zavatta, que vous nous parliez de toute cette vie du cirque, de toute cette vie grouillante autour de la caravane.
Ah ben moi le cirque, c'est vraiment ma vie, vous savez. D'ailleurs, quand on reste plus de 2 ou 3 jours dans une ville, je m'ennuie. Ma vie, moi, c'est le mouvement, me lever de bonne heure, voir les camions, tout ça, cette vie mouvementée comme à l'armée, d'ailleurs.
Et est-ce qu'il y a des traditions dans le métier d'Auguste? Et est-ce que vous avez, je vous pose la question, bien que je connaisse la réponse, est-ce que vous avez renouvelé ces traditions?
Ben, les traditions, non. Moi, vous voyez, j'ai un répertoire tout à fait nouveau. Vous avez pu vous en rendre compte par vous-même. Je ne touche pas du tout au répertoire de clowns qui date depuis des années et des années. Je sors toujours des nouveaux sketchs, je fais partie de la société des auteurs, et ma foi, je vois que les gens adorent ça, voir du nouveau, surtout chez les clowns.
Est-ce que vous pourriez nous raconter quelques-unes de vos dernières trouvailles en fait de sketch, justement?
Ben, les dernières trouvailles que j'ai sorties, ça a été les cagoulards, la voiture atomique et le gros lot qu'on joue en ce moment au Zoo Circus.
Eh bien voilà, justement, je voudrais que vous résumiez un de ces sketchs, que vous expliquiez à nos auditeurs quels sont les moyens de faire rire un public.
Ben, les moyens, vous savez, nous, on monte un sketch, vraiment, il nous passe une idée et puis on dit, tiens, on va en faire un sketch. Tout ça, on le travaille le soir dans le public. On n'écrit rien, on n'a pas de texte établi, rien, absolument rien. On rentre dans la piste et on improvise et vous voyez, on est arrivé tout de même à faire un sketch qui tient 25 minutes.
Et quels sont les mots, vous avez une expérience du cirque qui est longue, quels sont les mots qui portent, quels sont les gestes qui font rire le public de cirque?
Ah ça, les mots et les gestes, je ne peux même pas vous le dire moi-même parce que je le ressens que dans la piste.
Oui, des simcas.
Non, tu sais,
acheter des grandes voitures, là.
Et après, on va s'acheter un cirque. Ça, c'est une idée.
Hein? Un grand cirque.
Voilà, comme ça, on va engager les patrons du zoo au circus et on les fera travailler à leur tour.
Bravo!
Et voilà, bébé. T'as entendu ce qu'ils ont dit, les avatars?
Non.
Ils ont gagné 10 millions à la loterie, dis donc. Le petit avatar, moi, je le connais, c'est un foussard. Je vais m'habiller en diable, on va chez eux et on leur prend le fric. D'accord?
Ouais, mais moitié-moitié, hein?
Réglo, réglo.
Allez, là.
Mais pour qui vous nous prendez, monsieur?
Ça, c'est bien répondu.
Enfin,
là, hein.
Là, il est marrant, hein.
Il n'a pas fait. Qu'est-ce que c'est?
Mais non, voyons. C'est ça. C'est ça qui a fait ça. Il y a un petit bout de caoutchouc, hein? On le pince comme ça entre les doigts et il sort des sons.
Tu vas voir?
Essaye, tu vas voir. C'est joli, hein? Ah oui, mais ça fait des chatouilles. Tiens, viens, on va essayer encore une fois. Hein? Non, moi. Bah, tu veux essayer? Je voudrais essayer. Tiens, vas-y. Je vais vous faire l'imitation d'un petit rossignol.
Et voilà, La foule quitte le cirque, la nuit l'attend sur la grande place. Sous la lumière crue des projecteurs, les fauves, les acrobates, les clowns et la jolie petite écuyère suédoise ont terminé leur exhibition. L'orchestre des cuivres expire son dernier morceau de bravoure. Une autre vie, plus silencieuse, plus mystérieuse, va recommencer. Monsieur John redeviendra Monsieur Jean. Monsieur Ligus se transformera en Gustave. La grande place retrouvera son visage monotone de chaque jour. Une autre ville attend le cirque, une autre ville et d'autres gens. Demain, Rebka remettra sa tête dans la gueule de la lionne. Maris Begari fera son rétablissement sur le trapèze. Rolf et Zavata se battront avec le diable. Tirana valsera avec ses ours du Canada. Les yeux bandés, la tête dans un sac, les Bergman sauteront sur leur cheval. Et les mêmes cris, les mêmes rires, le même enthousiasme accueilleront, stimuleront, remercieront ceux qui dispensent ainsi un peu de rêve dans le cœur des petits-enfants et des grandes personnes, les hommes du cirque, les gens du voyage.
C'était Un jour au cirque, un reportage de Georges de Caunes sur le cirque Zoo Circus, diffusé pour la première fois sur la chaîne parisienne le 14 août 1949. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.